Bonjour. Profitant de cette petite balade matinale et dans la nature, je me suis dit que c'était sans doute un bon moment de voir comment, une fois encore, la nature pouvait nous donner quelques sources d'inspiration quand on parle de compostabilité dans nos projets. Sans revenir au fondement des choses et repasser jusqu'à le Big Bang et l'apparition de tout. Bon, il faut quand même remarquer que depuis le début, donc depuis 13,7 milliards d'années, l'univers ne fait que recycler des particules, que ce soit à travers l'explosion d'étoiles et la naissance d'étoiles, un remaniement permanent des éléments fondamentaux qui étaient présents au Big Bang et qui constituent tout aujourd'hui, notamment ce qu'on est nous aussi sur cette Terre. Mais bon, on va pas redémarrer du début, donc on va tout de suite se caler sur la naissance de la Terre, qui fait quand même une petite trotte, hein, parce que c'était il y a 4,5 milliards d'années, pour voir un petit peu comment tout ça s'est mis en place et comment le vivant s'est construit sur base de quelques fondamentaux qui sont probablement des très bonne source d'inspiration pour nos projets à nous aussi. Alors en accélérant un peu, il y a 4,5 milliards d'années, il y a du gaz qui s'effondre un peu sur lui-même et qui, la poussière, hein, qui forme une planète complètement incandescente, qui va rester comme ça pendant quelques centaines de millions d'années, qui va se faire très rapidement percuter par une autre planète qu'on appelle Theia et qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais qui dont la collision avec la Terre va provoquer l'apparition de la Lune. Et puis, très rapidement, la Terre va se faire bombarder pendant quelques millions d'années par des météorites qui, étrangement, apportent avec eux l'eau que nous côtoyons aujourd'hui. La Terre se refroidissant et les météorites continuant d'apporter ces molécules d'eau, on va finir par se retrouver quelques centaines de millions d'années plus tard avec une Terre quasiment recouverte par de l'eau. À cette époque, évidemment, il n'y a aucune vie sur la Terre. Et là, à part les grands océans, commencent à émerger, ça et là, quelques îlots de terre. Mais toujours pas de vie. Et puis après une légère période de calme, la Terre va se reprendre une volée de météorites pendant quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années même. Et ces météorites vont nous apporter toute une série de molécules un peu particulières, des acides, des bases, qui vont enrichir encore un peu plus l'océan existant sur la Terre à ce moment-là, et qui vont y apporter toute une série de briques organiques, qui vont permettre, vers 3,8 milliards d'années, l'apparition d'une vie. Cette vie va vraiment s'appuyer sur deux principes vraiment très importants. Le premier, c'est que tout ce qui constitue la vie peut se recycler de manière assez rapide et être réutilisé comme des briques pour la vie qui suit. Et le deuxième principe fondamental, c'est que la vie va s'appuyer sur un système de transmission de l'information, une compostabilité de l'information, assez simple et universel, qui s'appelle l'ADN ou l'ARN en fonction. Hein, donc, c'est un mécanisme universel qui est partagé par tout le vivant et qui permet de manière assez simple de transmettre une quantité d'informations vraiment très très étonnante à l'étape d'après. Tout ça va fonctionner gentiment pendant des milliards d'années. Donc, ça va rester très longtemps sous forme de bactéries primitives. Et puis vers 3 milliards 5, des bactéries vont s'associer, ça va donner des stromatolites. Ces stromatolites vont se mettre à produire de l'oxygène, molécule très peu présente sur la Terre à ce moment-là, simplement parce qu'elles vont inventer la photosynthèse. Hein. Et puis il va y avoir une quantité importante d'oxygène qui va être relâchée, mais cet oxygène ne va pas tout de suite rejoindre l'atmosphère, parce qu'en fait elle va d'abord oxyder tout le fer qui était présent dans les océans. Et puis enfin, on va pouvoir quitter l'océan et commencer à inonder l'atmosphère. et a complètement transformé le futur de la Terre. En gros, tout ça, ça va prendre des milliards d'années. Ça va commencer vers 3,5 milliards et il faudra presque 3 milliards d'années pour que la Terre possède une atmosphère à peu près semblable à celle qu'on connaît et qu'on voit émerger des formes de vie un peu plus conséquentes que des stromatolites ou des bactéries très très simples. Mais la vie va continuer pendant des milliards d'années, sans discontinuer, en s'appuyant simplement sur les fondamentaux évoqués, c'est-à-dire tout ce qui est produit par le vivant peut être réutilisé par le vivant à la mort de celui-ci. Et toute l'information, tout le stockage d'informations, toute l'innovation qui peut être stockée dans ces ADN ARN est transmise de manière simple et interopérable avec le vivant qui suit. Ces deux systèmes, c'est vraiment des briques incroyables et hyper résistantes qui ont permis à la vie de démarrer à 3,5 millions et puis d'arriver à celle qu'on connaît aujourd'hui avec toutes les formes de vie, et ce malgré des extinctions massives absolument colossales. Donc il y a eu 5 extinctions massives de vie sur la planète liées à des événements catastrophiques. Vous connaissez tous le météorite qui est arrivé il y a 65 milliards d'années au Crétacé et qui a zigouillé tous les dinosaures et permis aux petits mammifères de prendre la place et donc à nous humains d'arriver. Mais il y en a eu d'autres qui ont été absolument plus terrifiantes encore, puisqu'elles ont quasiment zigouillé 99% de la vie sur Terre. Et pourtant, la vie a systématiquement redémarré en s'appuyant sur le principe qu'on peut récupérer les briques d'avant et que l'information qui était stockée n'est pas perdue et qu'elle est facilement réutilisable par la génération qui suit. Et cette possibilité de transmettre les innovations qui émergent des générations précédentes permet justement à la vie de rebondir face à ces multiples crises. Alors là, j'ai parlé des extinctions, mais des crises, la vie, elle en connaît quand même de manière assez régulière. Et ce petit système tout bête, constitué de 4 acides aminés, permet de stocker des informations colossales et de les transmettre très facilement à la génération d'après, en ce y compris toutes les innovations et tous les échecs aussi, qui deviennent par ailleurs parfois les réussites des années, des générations suivantes. Bon, après ce petit détour, juste vous dire que, en gros, tout ça continue de fonctionner, évidemment, mais il y a à peu près 300 ans, l'homme a mis un petit coin là-dedans, en commençant à créer, grâce aux avancées de la chimie et de la physique, des particules, des molécules, qui sont non compostables. En fait, on a brisé le grand cycle général de compostabilité, qui fait qu'on s'est mis à produire des choses qui ne se compostent pas, dans des temps raisonnables, j'entends, sur Terre. Et ces choses, au début peut-être insignifiantes, commencent à prendre des places tout à fait étonnantes dans les écosystèmes qui nous permettent de vivre, et à tel point que certaines sont devenues même des freins à la vie auxquels on fait face, qui sont un véritable problème, évidemment. Ça, c'est la première rupture du principe de la compostabilité. C'est-à-dire que les briques du vivant n'arrivent plus à servir de briques pour le vivant qui suit. Elles deviennent même plutôt mortifères pour le vivant qui suit. Et ça, c'est un vrai, vrai souci quand même. Mais non content d'avoir brisé le cycle de la compostabilité des briques, l'homme, petit ingénieux qu'il est, s'est mis à briser aussi le cycle de la compostabilité des informations. Comment il a fait ça? C'est complètement arbitraire, évidemment, mais il s'est mis à inventer la propriété intellectuelle. Alors, elle a sans doute ses avantages, mais elle a quand même ses inconvénients, et notamment dans ce cadre-là, c'est-à-dire que des idées qui étaient transmises de manière simple auparavant par le vivant, sans se tracasser de savoir si c'était OK ou pas OK, en gros, les informations transmises dans l'ADN et l'ARN à l'échelle, évidemment, géologique, hein, pas de génération en génération, mais à l'échelle géologique, en gros, les informations dans l'ADN et l'ARN, c'est du CC baillé, ça. Donc vous ne devez pas demander la permission, vous pouvez réutiliser, et vous avez toujours une espèce de petite signature de l'auteur original en vous-même. Bon, tout ça, L'homme est parvenu à plus ou moins le contourner grâce à la propriété intellectuelle en commençant à mettre des blocages sur des idées, des innovations, des choses qui permettent à la vie de continuer. Alors au début, c'était presque rigolo parce qu'on mettait des choses sur des innovations techniques, mais là on en est arrivé, on a eu l'occasion de le voir, à du blocage sur des idées qui sont fondamentales. Sur, par exemple, les gènes qui permettent de travailler sur le cancer du sein. Ou sur certaines molécules qui permettent de fabriquer des médicaments. Ou encore sur certaines semences qui permettent de manger. Donc on se retrouve maintenant dans une espèce de situation un peu étrange où la vie a montré le chemin pendant près de 3 milliards et demi d'années. Et en 200 ans, 300 ans, on met en place des mécanismes qui brisent ce cycle qui a fonctionné, qui a fait ses preuves vraiment hein, à travers des extinctions incroyables. Et nous, on met en place un cycle qui brise ça, à la fois sur les constitutifs, les briques, et à la fois sur l'information. Et donc, le petit souhait de cette petite capsule sonore, c'est de se dire, est-ce que nous, dans les projets collectifs qu'on mène, si on souhaite rester dans les logiques du vivant, qu'est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on compostabilise nos projets? Comment est-ce qu'on rend les briques de ce qu'on produit disponibles pour la suite? Et comment est-ce qu'on permet à l'information qu'on produit d'être disponible pour la suite, que ce soit les échecs ou les réussites? Mais comment est-ce qu'on permet à ça de se poursuivre? Comment éventuellement on évite que tout ça ne soit coincé et perdu à jamais, et on s'est compris du coup l'énergie qu'on avait mis dedans pour les produire. Ce serait complètement l'énergie perdue. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à rendre nos projets compostables et donc permettre, une fois que la mort survient, et elle survient toujours à un moment donné, que ce soit pour nos projets ou pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on s'arrange pour que toute l'énergie qu'on a mis là-dedans ne soit pas perdue pour la génération qui suit? Voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je poursuis ma petite balade. Je profite des oiseaux qui chantent et du soleil qui se lève. À bientôt!